100% d'Europe. Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Il ne fait pas bon être journaliste en Turquie aujourd'hui. Chaque mois amène son lot de condamnations à des peines allant de quelques années de prison à la perpétuité. Ils sont des centaines envoyés derrière les barreaux pour, je cite, « apologie du terrorisme » ou « atteinte à la stabilité économique du pays ». C'est dans ce climat qu'ouvre à Istanbul un lieu de mémoire dédié à Hrant Dink, célèbre journaliste arménien, assassiné il y a 12 ans devant les locaux de son journal. C'est là qu'une fondation a voulu faire vivre son combat pour la paix et pour l'histoire de l'Arménie. Visite avec Anand Lauer.
Impossible de se tromper d'immeuble. Sur le trottoir devant la lourde porte en fer, une plaque rappelle que c'est ici, sur cette avenue passante du centre d'Istanbul, que Hrant Dink a été assassiné le 19 janvier 2007 à 15h05. De 1996 à sa mort, au premier étage de ce bel immeuble 1920, Hrant Dink a dirigé la rédaction d'Agos, hebdomadaire bilingue turco-arménien. En 2015, le journal a déménagé dans des bureaux plus grands, laissant la place à ce qu'il faut désormais appeler le lieu de mémoire Hrant Dink 23 et demi. Pourquoi 23 et demi ? Nayat Karaköse, coordinatrice du projet au sein de la fondation Hrant Dink, rappelle qu'il s'agissait du titre d'un article du journaliste paru le 23 avril 1996. Il expliquait pourquoi il se retrouvait chaque année pris au milieu de ces deux dates, le 23 et le 24 avril.
Hrant Dink y observait que le 23 avril, la Turquie célèbre la fondation de son parlement et que ce jour a été choisi comme fête des enfants, symbole d'espoir pour l'avenir. Quant au 24 avril, il marque le début de ce qui s'est passé en 1915, un épisode très lourd dans la mémoire et le cœur des Arméniens. C'était un texte qui souhaitait la paix, le dialogue, un texte plein d'espoir, et nous avons trouvé que cela correspondait très bien à la mission de ce lieu de mémoire.
Tout est là, exactement comme le journaliste l'avait laissé le jour de sa mort. Sur le bureau, ses crayons, son carnet rempli de notes, en turc, en arménien, en anglais, et de dessins griffonnés dans un moment d'ennui ou de rêverie. Nayat Karaköse insiste, elle qui, pour ce projet, a visité 80 lieux de mémoire à travers le monde, cet endroit n'est pas un musée.
Le but est de faire ressentir, de faire vivre une expérience aux visiteurs. Les musées, en général, sont des endroits un peu figés, alors que les lieux de mémoire sont des lieux qui font se poser des questions plutôt que d'apporter des informations. Ici, les visiteurs se voient proposer de nombreuses vidéos et notre narrateur principal, c'est Hrant Dink.
Exemple dans la pièce d'à côté. Elle raconte l'histoire de Camp Armen. Cette orphelinat d'Istanbul a accueilli pendant une vingtaine d'années des centaines d'enfants arméniens, dont Hrant Dink. Il y a rencontré son épouse, Raquel. Tous deux ont fait beaucoup pour préserver cet autre lieu de mémoire. Dans un coin de la pièce, sur un écran tactile, une carte de la Turquie s'affiche.
La fondation Hrant Dink a fait un travail précieux de recensement de l'héritage culturel de la Turquie. Sur cette carte, on découvre les lieux bâtis par les Arméniens, les Syriaques, les Juifs et les Grecs de Turquie. Ils y sont tous, ville par ville, les églises, les écoles, les synagogues, les hôpitaux. Malheureusement, la plupart de ces lieux n'existent plus. Rendez-vous compte, il y a un siècle, la Turquie comptait 2000 écoles arméniennes et grecques. Aujourd'hui, il ne reste aux Arméniens que 17 écoles.
Le lieu de mémoire Hrant Dink 23 et demi est donc ouvert à tous, gratuitement, du mardi au vendredi de 10h à 17h et jusqu'à 18h le week-end.
La guerre froide n'est pas tout à fait terminée. Elle renaît sous la forme d'une guerre médiatique violente où tous les trafics d'influence sur les réseaux sociaux semblent permis. Militairement aussi, l'annexion de la Crimée par la Russie il y a 5 ans a créé un choc. Et sur les bords de la mer Baltique, on se prépare au pire. C'est le cas de la Suède qui a réintroduit le service militaire et les exercices grandeur nature pour ses soldats. Reportage de la RTBF signé Caroline Hick et Jean-Marc Viercé.
Depuis un peu plus d'1 an, les tirs résonnent à nouveau sur l'île suédoise de Gotland, en plein cœur de la mer Baltique. Cela faisait 15 ans que le dernier régiment avait quitté cette petite île, mais en 2018, 280 hommes et femmes ont été repositionnés ici de manière permanente, Ida Delin, élève officier basée à Gotland. On a l'impression de faire quelque chose de spécial et ça nous rend encore plus heureux d'être ici. Tout le monde a le sentiment que ce que nous faisons est très important, que c'est vital pour la Suède. Ici, le service militaire a été réinstauré. Les campagnes de recrutement de l'armée ont repris. Il faut dire que depuis la fin de la guerre froide, la défense suédoise avait fondu comme neige au soleil. C'est en 2014 que le déclic se produit lorsque la Russie annexe la Crimée. Plusieurs incidents entre la Suède et la Russie ont depuis lors ravivé les tensions entre les deux pays. Le colonel Mathias Ardin, commandant du régiment de Gotland, situé à 250 km à vol d'oiseau de l'enclave russe de Kaliningrad.
Nous constatons une détérioration de la situation sécuritaire dans les pays baltes. De nombreux exercices sont organisés. Il y a une Russie forte, avec une activité militaire beaucoup plus intense qu'auparavant. Nous voyons ce qui se passe en Ukraine. Cette détérioration est la raison pour laquelle nous reconstruisons notre armée.
Parallèlement à l'aspect militaire, la préparation de la population civile est aussi enclenchée. L'an dernier, tous les ménages suédois ont reçu une petite brochure dans leur boîte aux lettres. Elle détaille comment se préparer au mieux en cas de crise climatique, de graves pannes de courant et même de conflits armés. Cela n'était plus arrivé depuis la guerre froide. Il est notamment conseillé de stocker des vivres pour pouvoir survivre une semaine sans aucune aide des autorités.
Hello Eric, this is Caroline.
Yeah, no problems. I opened the door for you. It's on the second floor.
Dans son petit appartement de Stockholm, Eric, informaticien, est prêt à parer à toutes les situations.
J'ai des pâtes, des flocons de pommes de terre. Ça se conserve bien. J'ai aussi des tomates pelées. C'est intéressant parce que vous pouvez cuire vos macaronis dedans. Vous n'avez pas besoin d'eau en plus. Ça, c'est un chargeur solaire. Je peux charger mes batteries avec et être sûr de pouvoir utiliser mes radios. Et puis j'ai de l'eau. Ça, l'eau, c'est important. J'ai de l'eau à la cave, 20 litres ou quelque chose comme ça, et elle se conserve 50 ans.
Eric a dépensé environ 2000 euros pour s'équiper. C'est devenu pour lui un jeu, voire une obsession. Il estime qu'en cas de crise, il pourrait tenir un mois.
Il faut pouvoir se chauffer, trouver de l'eau, de la nourriture et pouvoir communiquer. C'est ça qui manquera en cas de crise. Il n'y aura probablement plus d'électricité pendant une longue période. Il n'y aura plus d'eau courante, plus de chauffage à la maison. Il n'y aura plus assez de nourriture. Regardez ce qui se passe au Venezuela.
Plus la population sera préparée, plus la Suède tiendra le choc en cas de crise. C'est le message adressé aux habitants. Des habitants qui ne sont pas tous aussi bien préparés qu'Eric, mais qui comprennent la démarche et les inquiétudes des autorités, à l'image d'Alf, fonctionnaire d'une cinquantaine d'années.
Historiquement, si on remonte assez loin, des années 50 aux années 90, les institutions suédoises étaient prêtes à n'importe quel scénario. Il y avait des réserves de nourriture, des abris gigantesques avec des couvertures. Mais depuis la fin de la guerre froide, tout a disparu. On a tout vendu. Puis il y a eu la crise de Crimée en 2014. Et c'est comme si la guerre froide était de retour, en quelque sorte. La même paranoïa.
De paranoïa, il n'est pas encore vraiment question. Mais les Suédois préfèrent se préparer plutôt que de prendre le risque d'être un jour cueillis par surprise. La Suède n'est pas membre de l'OTAN, mais elle intensifie depuis plusieurs mois sa coopération avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, qui se dit elle aussi de plus en plus préoccupée par les activités militaires et non militaires de la Russie dans la région de la Baltique.
La menace russe, c'est aussi une question très présente pour les trois républiques baltes marquées au fer rouge par l'histoire soviétique. Bonjour Emma Roulin.
Bonjour Frédéric.
Un roman graphique intitulé Haïku de Sibérie revient justement aujourd'hui sur une des périodes les plus noires de cette histoire.
Oui, le 14 juin 1941, il y a 78 ans, 43 000 Estoniens, Lettons et Lituaniens étaient déportés par les soviétiques en Sibérie. Parmi eux, des milliers d'enfants de moins de 16 ans. Cela fait partie des crimes commis par Staline. Deux ans plus tôt, l'Allemagne et l'URSS avaient signé le pacte germano-soviétique, un pacte de non-agression contenant des clauses secrètes dans lesquelles les deux pays se partageaient les États situés entre leurs territoires. En juin 1940, l'armée rouge envahit donc l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Les trois pays baltes sont incorporés à l'URSS et toutes les personnes considérées comme traîtres à la nation et leurs familles sont déportées.
Et c'est d'ailleurs le cas de la famille de l'auteur lituanienne Jurga Vilė qui signe ce roman graphique.
Dans la nuit du 14 juin 1941, son père Algis est encore enfant quand il est réveillé dans la nuit par des soldats russes. Quelques minutes plus tard, la famille est entassée dans une charrette roulant vers une gare. Devant un train, elle est séparée, femme et enfant d'un côté, homme de l'autre. Algis, sa mère, sa sœur et sa tante sont parqués dans d'anciens wagons à bestiaux, direction le sud-ouest de la Sibérie. Algis vivra 5 ans dans les baraques aux murs troués d'un camp situé près de la ville de Barnaul. Il y connaîtra le froid, la maladie, la faim, y côtoiera la mort et y perdra une partie de son enfance et de son innocence. Ses douloureux souvenirs, griffonnés dans des carnets ou évoqués à mots couverts, Jurga Vilė, sa fille, a grandi avec. En écrivant ce livre, elle a souhaité transmettre cet héritage à ses enfants et à tous les jeunes Lituaniens qui n'ont pas connu l'occupation soviétique. Objectif, changer leur perception des migrants. On l'écoute.
Moi, je trouvais ça important à raconter pour cette belle vie qu'on a aujourd'hui, qu'on n'oublie pas, en fait, ni ce qui s'est passé avant, ni ce qui se passe maintenant. Est-ce qu'il peut se passer encore? Et moi, je pense qu'un enfant qui voit un autre enfant, disons un enfant réfugié, étranger, à côté de lui, qu'il naturellement se pose la question, est-ce que cet enfant est là parce qu'il a envie d'être ici ou c'est les circonstances qui l'ont amené jusqu'à chez nous, en fait.
Et donc Emma, tout au long du roman, Jurga Vilė raconte cette histoire du point de vue d'un enfant.
Oui, avec sa dose d'innocence et de naïveté, il y a des choses qu'Algis, le personnage principal, ne comprend pas, qu'il interprète mal ou qu'il invente. Pour se protéger, le lecteur a bien du mal à distinguer le vrai du faux, l'horreur apparaît en filigrane, mais on se laisse vite emporter par cet univers enfantin qui prend des allures de fable ou de conte. Le résultat, c'est un ouvrage hybride, alternant récits illustrés, bandes dessinées, lettres, poèmes, mais aussi un livre lumineux qui fait surgir des moments de poésie et de bonheur au milieu de la tragédie.
Haïku de Sibérie de Jurga Vilė, mis en image par Lina Itadaki et traduit en français par notre correspondante Marielle Vituro, est sorti au printemps aux éditions Sarbacane. Merci Emma Roulin.
À bientôt Frédéric.
À très bientôt. Et si le féminisme n'était pas réservé aux femmes, si la moitié de la société, entendait les hommes, pouvait aussi réfléchir à la part de construction, de mauvaises habitudes et de stéréotypes qui fondent la place des femmes. Dans la vague de prise de parole qui a suivi le mouvement MeToo, nous avons trouvé des hommes à part, en Sicile, dans une île qui souffre tant de la violence, celle exercée par la mafia, celle des violences conjugales. 6 hommes, membres d'un collectif, font le tour des lycées pour dire qu'être un homme, ce n'est pas être violent, bien au contraire.
Dans le brouhaha général, une cinquantaine de lycéens de l'établissement Galileo Galilei de Palerme attendent le début de l'intervention des trois membres de Noi Uomini, littéralement « nous les hommes ». Créée en 2016, cette association, composée aujourd'hui de 6 hommes entre 40 et 70 ans, intervient dans plusieurs écoles de la région pour y parler des violences faites aux femmes, des stéréotypes de genre et de nouvelles masculinités. En Italie, chaque année, au moins 100 femmes sont tuées par des hommes, souvent leurs compagnons.
Le problème maintenant, c'est de comprendre d'où vient tout ça. Peut-être avez-vous déjà votre petite idée. On pourra en parler, mais je vais vous dire ce que nous, nous en pensons. Notre idée, c'est que la violence entre les sexes est due à des facteurs culturels.
Francesco Seminara est l'un des membres fondateurs de Noi Uomini. À l'origine du projet, une discussion avec une amie féministe qui l'alerte sur la question de la traite des femmes nigérianes à Palerme et de la nécessité pour les hommes de prendre eux aussi le problème à bras-le-corps. Face au lycéen, Francesco Seminara énumère les stéréotypes de genre qui découlent souvent du modèle de société patriarcale fortement ancré en Italie et plus encore dans le sud du pays. Ginevra a 16 ans, elle déplore que pour beaucoup d'hommes siciliens, la femme soit encore cantonnée à la maison alors que l'homme doit être celui qui travaille.
En classe, il y avait un peu cette idée, mais on a réussi à avancer. Et même mes camarades ont compris qu'il n'y avait rien de mal à ce qu'un homme reste à la maison ou qu'il n'ait pas de travail. Alors que ça a été impossible de convaincre mon père ou mon grand-père malgré un débat plutôt long.
Cette vision rigide de la répartition des rôles entre hommes et femmes est un piège pour les hommes eux-mêmes, explique la jeune femme, dont la fin de la phrase est complétée par son amie Chiara, 17 ans.
Une femme qui reste à la maison est définie comme étant une mère au foyer.
Alors qu'un homme dans la même situation sera un chômeur ou un raté, alors qu'il s'occupe peut-être des tâches ménagères et de la maison.
Pour faire réfléchir les lycéens, une exposition a été installée dans le hall de l'école pendant 15 jours. Elle représente une dizaine de scènes de la vie quotidienne de couple. Les hommes y sont représentés prenant soin de leur intérieur, cuisinant ou encore s'occupant des enfants.
J'aimerais qu'on s'attarde sur le message de cette exposition. Vous voyez que c'est écrit « se reconnaître homme ». Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression ?
Michele Valderosa, lui aussi, fait partie de Noi Uomini. Alors que l'une des affiches de l'exposition a été vandalisée par un élève et couverte d'une insulte homophobe, il tente d'ouvrir le débat sur la masculinité et ses attributs.
Il faut enlever de l'esprit des hommes de ce genre tous les stéréotypes qu'on nous a inculqués depuis la nuit des temps, depuis la préhistoire, quand on disait que la femme restait dans la caverne et que l'homme, lui, devait partir à la chasse. Et ça a duré jusqu'à aujourd'hui.
C'est le défi principal des membres de Noi Uomini, ouvrir le champ à une remise en question de la masculinité traditionnelle italienne, comme l'explique le philosophe consultant Augusto Cavadi.
Nos vies sont pleines de figures masculines qui ne nous convainquent pas, pleines d'hommes qui sont adorés par leur mère, puis leur femme, puis leur fille, et qui ont toujours besoin d'être au centre de l'attention, constamment besoin d'être bichonnés. Dialectiquement, ça nous aide à comprendre ce dont on ne veut pas.
La nouvelle masculinité, elle, est encore en construction pour définir peu à peu, en positif, un nouveau rôle de l'homme au sein de la société, explique Francesco Seminara.
On imagine un modèle qui laisse de l'espace à des sentiments comme la gentillesse, qui laisse l'espace de prendre soin de ses enfants aussi bien qu'une mère, voire mieux. Mais au-delà du cercle familial, qui laisse aussi l'espace de travailler dans des secteurs où l'on accueille, où l'on prend soin des autres.
Deux fois par mois, le lundi soir, les six compagnons se retrouvent donc pour débattre, discuter de situations personnelles qu'ils peuvent rencontrer ou préparer leurs interventions dans les écoles. Une tâche énorme, mais plus que jamais nécessaire, estime Augusto Cavadi.
Le conflit homme-femme, ce n'est pas juste une problématique qui s'ajoute aux autres. C'est d'une certaine manière la mère, la matrice de tous les autres conflits de nos sociétés.
13 autres associations d'hommes réunies au sein du groupe Masquile Plurale, c'est-à-dire masculin pluriel, entreprennent une réflexion profonde sur la nouvelle masculinité. Des associations situées du nord au sud du pays, même si elles ne sont que deux au sud de Naples, à Palerme et Bari.
Un reportage à Palerme signé Cécile Debarge. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Bessé. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast, et sur les réseaux sociaux. À demain.
Pour nous écrire, accent au pluriel.europe@rfi.fr.